Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 59, troisième saison en ce lundi 27 juin. Eh bien, nous connaissons maintenant les champions de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado. Pour en parler de la presse, Simon-Olivier Larrange qui est là. Salut Simon.
Salut Jérémy.
Nous avons également Mickaël Lalancette. Salut Mick.
Salut les gars.
Et en studio avec nous, le gars de Sherbrooke, Stéphane White.
Oui, monsieur. Salut les gars.
Ça va?
Oui, ça va super bien.
Messieurs, c'est fait officiellement, l'Avalanche du Colorado remporte la Coupe Stanley dans une victoire... Écoute, mérité du Colorado qui l'emporte 2-1 face au Lightning de Tampa Bay, élimine le Lightning en 6. Alors donc, je dois répéter que ma prédiction de Tampa Bay en 5 ne tient plus avant que Stéphane nous le dise en plein visage. Écoute, un premier tour de table sur ce match-là. Qu'est-ce que tu as vu de l'Avalanche Colorado, Stéphane?
Bon, écoute, quelle belle équipe de hockey. Moi, j'ai vu une équipe qui était mature, qui était prête à gagner. Le noyau a perdu les dernières années. Et puis, c'est plate, mais c'est le même que tu apprends à gagner. Le noyau, ta nature, et ta mature. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que, ben, écoute, Joe Sakic a fait un job incroyable en amenant de la profondeur. Puis, ça, on va en parler plus tard, tantôt, là. Mais bravo à Tampa Bay. Et à Tampa Bay, à l'Avalanche. Mais bravo aussi à Tampa Bay parce que c'est pas facile. 3 ans en ligne, aller jusqu'au bout, là. C'est un exploit. Gagne ou pas, là. C'est pas grave. C'est un exploit de se rendre. Puis, c'est une belle finale avec les deux meilleures équipes de la Ligue nationale en ce moment.
Clairement. Simon-Olivier, on en parlait avant d'entrer en onde. Je te parlais du rythme de ce match-là. C'était quasi inhumain de voir deux clubs comme ça être aussi rapides en début de match.
Je suis 100% d'accord, effectivement. Ça allait très vite. Puis même que j'ai vu le Lightning sortir plus fort peut-être que ce à quoi je me serais attendu. Non, je veux dire, ça peut paraître particulier dans la mesure où c'est un match 6 qui devait gagner, mais j'ai l'impression que les départs, c'était pas toujours leur spécialité. Là, vraiment, on est sorti très fort le but de Stamkos très tôt. Le momentum était là à domicile, mais l'Avalanche s'est jamais laissé intimider. Puis on gardait le rythme tout le long du match. Mais moi, c'est vraiment le travail défensif de l'Avalanche en troisième période qui m'a jeté à terre. On sait, même sans Braden Point, le Lightning a quand même une équipe extrêmement puissante sur le plan offensif. Ils ont 4 tirs en troisième période, aucun du centre de l'enclave que je voyais aujourd'hui sur Twitter. C'est exceptionnel. Là, on a une équipe qui est bâtie pour remonter des matchs, puis qui l'a fait plusieurs fois. Et là, on a complètement fermé la porte. Fait que chapeau à l'Avalanche, cette coupe-là peut pas être plus méritée que ça.
Mickaël, on a senti à un moment donné peut-être que Tampa Bay voyait que la côte était dure à remonter. Là. T'sais, on a senti un petit découragement. Simon-Olivier vient d'en parler, il y a une période où je pense que ça faisait 13 minutes consécutivement là, qu'on n'avait pas un lancé au filet. C'était pas facile pour Tampa Bay dans cette finale-là, mon cher ami Mickaël.
Non, ils leur en ont donné pour leur argent. Puis oui, il y avait l'expérience, il y avait le petit plus, il y avait le match-up de gardien de but aussi qu'on surveillait d'un bout à l'autre. Puis à un moment donné, on faisait la comparaison, oui, des gardiens, mais des capitaines, on regardait le leadership des tu sais, dans une finale de Coupe Stanley, tu gagnes pas la Coupe si tes meilleurs sont pas les meilleurs. Puis hier, Nathan McKinnon, d'aller chercher ce but-là qui a fait beaucoup de bien, qui lui a fait beaucoup de bien, c'est sûr, dans un moment quand même critique, c'était des buts à 5 contre 5. Tu sais, ça, c'est des vrais buts de séries éliminatoires, de voir ces gars-là s'élever au bon moment. J'ai trouvé que, dans le fond, la meilleure équipe des deux avait gagné la finale de la Coupe Stanley. C'est un parcours qui a été mérité pour l'Avalanche. Une superbe saison, mais une super saison qui se termine pas nécessairement tout le temps avec une Coupe Stanley. Et le petit plus, la petite coche de plus qu'on voulait voir du côté de l'Avalanche, ben on l'a vu dans cette série-là, mais on l'a vu dans le match d'hier. T'sais, ils ont repris leur... À certains moments de la série, je trouvais que le Lightning, à leur avantage d'ailleurs, était capable de ralentir un peu le pace, mettait ça de façon plus serrée, tout ça. Mais hier, ça a été vraiment l'Avalanche qui s'est servi de sa force. On dit souvent que les équipes de l'Ouest, c'est des équipes imposées physiquement, qui est très efficace en échec avant, oui, mais du point de vue de la rapidité, là, ils dictaient le tempo et ça a été un sacre tout à fait mérité pour l'Avalanche.
Stéphane, as-tu eu un petit doute sur Darcy Kuemper après le premier but? Le but entre les jambières là, semblait un peu désorganisé. Je fais, oups, est-ce que ça va? Est-ce que la chaîne va débarquer?
Non, honnêtement, non. Non. C'est vrai qu'il a eu l'air fou là-dessus, mais je comprends sa réaction parce que ce qu'on appelle en termes de hockey un break and play. Là. Il y a eu un over très proche et puis la rondelle a frappé un patin. Donc, il y a eu une réaction qui est normale. Donc, non, ça ne m'a pas inquiété. Et puis, je pense qu'il a bien fait. Sans être extraordinaire, il a bien fait dans la série. Et puis... qu'est-ce que tu veux de ton gardien de but, c'est qu'il ne te perde pas cette série-là. Peut-être qu'ils n'ont pas gagné à cause de Kuemper. Mais ils les ont pas fait perdre. Puis ça, c'est important. Et puis, je me souviens, Antti Niemi, on a gagné la Coupe Stanley en 2010. Il n'avait pas été incroyable, mais il avait fait les arrêts qu'il avait à faire.
Ouais.
Et puis, c'est tout ce qu'on... il y a des clubs que c'est tout ce que tu as besoin. Et puis, il a fait sa job. Puis, tant mieux. Puis, je suis bien content pour lui. Moi, c'est un... je ne me suis jamais caché que c'est un gardien de but que j'aimais. Que je trouvais, que je trouve qu'il est meilleur que ses stats le montrent cette saison.
Il y a Cal Makar également, gagne le Conn Smythe. Simon Olivier, écoute, c'est comme une vérité de la palisse. Tout le monde s'attendait à ça.
Ben oui, parce qu'avec. Il cherchait le 30e point qu'il n'a pas eu finalement, mais il serait devenu, je crois, le 3e ou le 4e défenseur de l'histoire à amasser 30 points au cours d'une même ronde, pas une ronde, mais le même printemps de séries éliminatoires, des chiffres des années 80-90. Fait que de voir ça dans un contexte actuel avec les gardiens qui sont tellement bons. Les systèmes défensifs qui sont tellement rodés, c'est exceptionnel, en plus, à l'âge qu'il a. On n'a pas, je sais pas si on a encore vu le meilleur de lui, mais on en a vu du très, très bon, disons-le comme ça.
Moi, je vais vous dire, il y a une chose que j'ai appréciée, c'est de voir, puis Mick, je vais t'entendre réagir là-dessus. Je suis peut-être, écoute, Stéphane, on partage le old school à l'occasion.
Ouais.
C'est quand Makar remporte le Conn Smythe, puis il s'en va pas avec le trophée dans les airs demain. Ouais, j'ai gagné le Conn Smythe. Il le prend, s'en va au banc, discrètement. Parce que, tu sais, le Conn Smythe, en fait, c'est un effort individuel, mais c'est le collectif qui te fait bien paraître quand même, tu sais, puis.
Ben oui.
J'ai trouvé ça humble de sa part, puis j'ai trouvé ça correct, Mick. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Oui, mais tu sais, Cale Makar, là, moi, je me souviens, son année de repêchage, les échos qu'on avait de Brooks en Alberta, là, c'était bonne personne, bon coéquipier. Tu sais, c'est ressorti et il y aurait toutes les raisons au monde de peut-être, sans dire d'être selfish, mais de penser à lui ou de prendre les réflecteurs sur lui. Au contraire, ça n'a pas été ça. Dans le match où est-ce que, bon, l'Avalanche, sur le but de Palat, là, il s'en voulait et tout ça, danser sur cette séquence-là. Il s'est mis on the spot là. Il a pris une partie du blâme sur ce jeu-là, même s'il était loin d'être le seul d'ailleurs, le seul responsable ou le seul coupable ou le, en tout cas bref, peu importe. C'est un bon gars, Cale Makar. Et c'est pour ça, tu sais, je veux dire, Simon Olivier parlait de son jeune âge. Tu sais, il y a deux autres défenseurs qui ont fait ça, là, 23 ans au moins, gagné le Conn Smythe comme défenseur, parce que il y a eu des attaquants, il y a eu des gardiens, mais les défenseurs, il y en a eu deux là dans l'histoire. Plus jeune que lui, Bobby Orr et Serge Savard. Tu sais, je veux dire, c'est des noms là qui ont été marquants dans l'histoire du hockey. Et il va, je pense, le niveau de performance qu'il a eu dans ces séries-là, c'est dans la lignée des grands défenseurs. Puis le fait qu'il connaisse ce succès-là et qu'il demeure un gars hyper souriant, tu sais, puis je pense que dans le vestiaire, les échos qu'on en a, c'est un gars qui est hyper apprécié. Bref, ça en dit long sur la personne qu'il est.
C'est drôle quand même, Makar, puis on va se parler d'Arthur Ylikonen dans quelques instants, là, mais Makar, je trouve qu'il représente tellement la nouvelle Ligue nationale de hockey. Tu sais, c'est comme un attaquant en défensive, mais qui est conscient de sa défensive aussi, un bon gars qui se vend bien, qui est tellement talentueux. Tu sais, je trouve ça le fun que la Ligue nationale de hockey ait ce genre de joueur-là, ce genre d'étoile là que les jeunes peuvent s'associer avec.
Bon, c'est clair, écoute, c'est la nouvelle génération et puis les jeunes vont s'identifier à lui. Les jeunes défenseurs vont s'identifier à lui. Les jeunes défenseurs au hockey mineur vont vouloir jouer comme lui. Et puis ça, c'est juste du bon pour la Ligue nationale. C'est juste du bon pour le hockey, point, de la façon qu'il joue. Et puis, c'est sûr que c'est plus spectaculaire voir un Cale Makar qu'un Ben Chiarot.
On les compare constamment.
C'est pas le même genre de joueur, mais c'est justement les jeunes, ils vont s'identifier à ça, puis ça va être le fun de voir ça dans le futur.
Mais c'est intéressant, je trouve, ce qu'il dit, Stéphane, parce que, bon, évidemment, l'exemple avec Chiarot est gros, là, mais tu sais, si on regarde même ne serait-ce qu'avec Victor Hedman, qui est un des meilleurs défenseurs de sa génération, mais dont le style n'a rien à voir avec celui de Makar, pas le même gabarit, pas la même approche du hockey. Et autant Hedman est bon, autant Makar, j'ai l'impression qu'il est unique présentement, dans la mesure où c'est un tel niveau d'habileté dont il se sert. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. T'sais, on a vu beaucoup de bons défenseurs offensifs au cours des années, ne serait-ce que John Carlson, même Sergei Gonchar avant lui, Markov à Montréal. T'sais, des défenseurs qui amassaient 50-60 points, mais de cette manière-là, ça me semble peut-être pas inédit, là, mais disons dans l'ère à laquelle on assiste, je pense pas en avoir vu d'autres comme ça.
Mais c'est drôle parce que Colorado a quelque chose de particulier, puis je voyais à un moment donné des images de l'entraînement, puis c'était le coach des skill coach qui était là du côté de l'Avalanche. Il était avec Nathan MacKinnon et c'était, je suis à l'extérieur, je freine, je déborde et je rentre en dedans. Je reviens vers l'intérieur pour aller prendre un lancer au filet. Tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, habituellement, on fait pas ça. On est là, on prend possession de la rondelle, le gars arrive, tu vas la mettre en arrière pour qu'un autre aille prendre possession de la rondelle. Mais j'ai l'impression que ça identifie l'Avalanche du Colorado, Michael, parce que c'est un club qui veut manger le filet. On veut vraiment, puis on va utiliser un terme de hockey, on veut driver le filet. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut être, et eux sont toujours les premiers à être là.
Ben, il n'aurait pas battu le Lightning s'il n'avait pas fait ça. Sincèrement, avec Vasilevski devant le filet, là, c'est un gars qui est dans un monde. Et tu regardes, tu décortiques les buts qu'il a accordés. Ils ont dû travailler très fort devant lui pour être là, pour faire des déviations, pour créer quelque chose autour de lui. Parce que dès qu'il voit la rondelle, c'est un mur. Là. C'est une planche de plywood en avant du filet, puis ça rentre pas. Et alors, ils ont tout fait pour être capables de justement de battre le Lightning, qui est une équipe d'expérience, qui en ont vu d'autres, qui sont capables de jouer du hockey de tous les styles possibles, inimaginables, de faire des remontées et tout ça. Mais pour battre le Lightning dans toutes ces facettes du jeu-là, ils devaient faire ça et ils l'ont fait à merveille. Sincèrement, à certains moments, puis tu sais, je veux dire, Vasilevski, il n'y a pas grand-chose à lui à se reprocher, mais ils l'ont fait mal paraître, entre guillemets, parce qu'ils ont été capables de créer les jeux autour du filet qu'ils devaient faire pour être capables de le battre.
C'est un bon match pour Vasilevski. On aura l'occasion d'y revenir. Messieurs, c'est le temps de parler d'Arturi Lehkonen, le seul et unique Arturi du quatrième trio à Montréal au but de la victoire avec l'Avalanche du Colorado dans ce match 6 de la finale de la Coupe Stanley. Honnêtement, j'étais content pour Lehkonen. Explique-nous, Stéphane White, qui était dans l'organisation du Canadien, tu vois qu'on va te pitcher des tomates. Là.
Ouais.
comment se fait-il qu'un gars est sur le quatrième trio avec le Canadien, qui est 32e dans la Ligue nationale, puis se ramasse avec l'Avalanche du Colorado, joue parmi les deux premiers trios, joue sur l'avantage numérique, marque des buts importants, des buts victorieux.
Ben oui.
Comment t'expliques ça?
C'est dur à expliquer. Probablement avec les qualités de ce qui est entouré. Écoute, à Montréal, il n'était pas entouré de MacKinnon ou de Kadri ou de Landeskog, tous ces gars-là. Et puis, écoute, Arthur, il a quand même, les deux dernières années, là, il a quand même monté son jeu d'un cran. L'année passée, avec le Canadien, il était un des bons joueurs des séries. Oui, on se rappelle tous de son fameux but contre Vegas, mais il a quand même été un des bons joueurs du Canadien. Cette année, il a eu des séries éliminatoires impressionnantes avec le Colorado. Et puis, comme j'ai tout le temps répété, ce gars-là, les coachs l'adorent. Claude Julien l'adorait. Michel Therrien l'adorait. Puis c'est certain qu'aujourd'hui, le matin, là, Bednar l'adore aussi.
Et Joe Sakic aussi.
Mais quel échange, puis quel... je suis très content. Pour expliquer du quatrième, ben là, on va dire, toi, tu dis quatrième. Oui, il était quatrième de temps en temps. Souvent, il était troisième ligne. Mais c'est un joueur là, tellement complet. C'est drôle parce que là, il score des buts. Mais souvent, on disait, arrête de shooter en plein du milieu du filet. Je veux dire, et puis là, ça, c'est une question de confiance. C'est une question avec qui tu joues. Et puis, mais je suis content parce que, comme tu dis, c'est tellement un bon gars. Les gars l'adorent dans la chambre. Hier, on voyait à Sportsnet que Gallagher il a texté pendant toute la série. Puis, tu vois que le gars, là, il était très aimé, autant par ses coachs, par ses coéquipiers. Puis, quel timing. Seulement 26 ans, hein, Arthur. 26 ans, c'est pas vieux, ça. Et puis, quel timing pour renégocier un contrat.
Joueur autonome avec restriction, Lehkonen présentement. Moi, sais-tu quoi, il y a quelque chose qui m'agace. Puis ça, vous les coachs, et je pointe Stéphane dans le cas qui nous occupe, là, vous avez la maladie des fois de coller une étiquette sur un joueur. Tu comprends-tu? Et l'étiquette de Lehkonen, c'était bon, travaillant dans les deux sens de la patinoire, mais toute la portion où il peut générer de l'attaque, ça, on y croyait peu. Il cédait pas en lançant en plein milieu du crest, comme on dit.
Il générait de l'attaque.
Mais il générait de l'attaque, mais pas capable de finaliser.
Il finissait pas. C'est une question de confiance. Puis là, à un moment donné, il score les gros buts à cette heure. Donc, c'est rendu le nouveau Claude Lemieux.
Oui, Claude Lemieux. Mais il y a cette notion d'étiquette-là. Moi, à un moment donné, il faudrait être capable de repartir à zéro et enlever l'étiquette qu'on t'a collée sur ton casque pour dire « Je ne suis pas juste un gars bon dans les deux sens. » Et c'est ce qu'on voit avec Lehkonen. Il est capable de faire la job.
Il est capable de faire la job, je suis 100% d'accord, mais faut le voir dans quel contexte il a fait. Avec le Canadien, comme l'a dit Stéphane, il en a généré de l'attaque. C'est un gars, si on regarde les statistiques un peu plus avancées, qui a rendu ses coéquipiers meilleurs sur à peu près n'importe lesquels, s'il était sous le quatrième trio ou sous le premier, il rendait ses coéquipiers meilleurs. Mais maintenant, rendre ses coéquipiers meilleurs quand ton joueur de centre s'appelle Jake Evans versus quand il s'appelle Nathan MacKinnon, ben le niveau de succès qui vient avec est différent. Tu sais, j'essaie de comparer ce qu'il a généré en série par rapport, avec l'Avalanche par rapport au reste de sa carrière. T'sais, juste par rapport aux séries de l'année passée, t'sais, son regarde les chances de marquer à force égale, c'est plus élevé, mais c'est à peu près semblable. Même chose pour ce qui est accordé. C'est juste que vraiment, les buts rentraient parce que forcément, il était le moins bon joueur offensif de son trio et de loin. Et il n'y avait pas la mission, justement, de marquer des buts. C'était un peu du grévé, pour bien parler français. Et c'est drôle parce qu'encore une fois, Stéphane évoquait le fameux tir il disait arrête de tirer juste dans le crest. Puis hier, en première période, il y a une entrée de zone, Nathan MacKinnon remet à Lekkonen. Lekkonen prend son temps, tire sa cible préférée dans le logo de Vasilevskiy, un arrêt facile. Mais le but qu'il marque en deuxième période, il n'y a pas de temps de réaction. Il reçoit la rondelle, bang, il la met dedans, de la même manière qu'il avait marqué le but gagnant contre Vegas l'année passée. Et Lekkonen, je pense qu'il est à son meilleur dans ces situations-là. C'est un joueur qui justement charge le filet, travaille autour du filet et très réactif. C'est pas un joueur qui a un assez bon lancer ou un assez bon flair pour décocher un tir des cercles de mise au jeu comme Cole Caulfield le fait puis déjouer un gardien de but. Peut-être que ça va arriver, mais pas sur une base régulière. Mais autour du filet, s'il va instantanément, c'est un joueur qui peut être dangereux. Et je vais finir là-dessus en disant, dangereux au point d'avoir ce rythme de croisière-là, je pense pas, dans la mesure où un bon indicateur, un indicateur qui m'intéresse, je trouve qu'il est très simple souvent, c'est le pourcentage d'efficacité des joueurs au tir au but, c'est-à-dire un but sur 10 tirs, c'est 10%, etc. Lekkonen en carrière, c'est 9.2 en saison régulière pour l'ensemble de sa carrière dans 400 quelques matchs. En séries éliminatoires, cette année avec l'Avalanche, c'est 18.6. Fait qu'au lieu d'être un tir sur 10 qui rentre, c'est un tir sur 5. C'est pas un rythme soutenable, surtout pas pour un joueur comme Lekkonen. Fait que, est-ce que Lekkonen s'est transformé en marqueur de 30 buts? Je pense pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'évoluer dans un contexte positif avec des coéquipiers de cette qualité-là, ben c'est sûr qu'un gars comme lui est un poisson dans l'eau. En étant un gros travaillant comme ça, il peut juste gagner de ça.
Mais Michael, je regarde ça. Là, si moi, je suis l'agent de Lekkonen et en plus, t'es joueur autonome avec restriction, je sais pas si... Je veux pas vous mettre dans l'embarras, mais je sais pas s'il a le droit à l'arbitrage dans son cas.
Il a le droit à l'arbitrage qui est bon pour lui.
D'ailleurs. OK, ouais. Donc, écoute, ça se peut qu'on pèse fort sur le crayon, mon cher Michael, pour le prochain contrat de Lekkonen.
C'est sûr. Puis, tu sais, on parle beaucoup là, de son but de l'année passée, de son but de cette année, de ses gros buts de cette année. Mais ça remonte aussi à 2020, souvenez-vous, contre les Pingouins. Il avait marqué un très gros but à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui ressort quand même de son jeu. On a eu l'impression, sincèrement, dans les dernières semaines, qu'il a marqué pour toutes les fois où il a raté plein d'occasions à Montréal. Mais, donc, très heureux pour lui. C'est sûr qu'il va récolter ça. Tu sais, veut pas, on se cherche dans le monde du hockey, puis c'est ça, dans universellement, là, peu importe la ligue, les gars qui sont capables, des gars de grandes occasions. Et lui, cette étiquette-là est en train d'y coller, puis veut pas, ça augmente sa valeur, ça c'est certain.
Moi, je me rappelle de ce but offert gratuitement par Koskinen des Oilers d'Edmonton qui permettait aux Canadiens de gagner ce match-là et d'accéder en temps de pandémie aux séries de fin de saison. Il est Koskinen qui lance de l'aile gauche de nulle part et Koskinen qui laisse passer ça comme un ballon de plage. Donc merci, mon cher ami Koskinen qui ne sera pas dans la Ligue nationale, ça va en Suisse, c'est ça?
Ça va en Suisse, ça va être parfait pour lui, mais Koskinen qui est finlandais avait donné un bon coup de main à Arthur qui était finlandais aussi.
Ah voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Messieurs, dans le match d'hier, dans les commentaires d'après-match, moi je retiens les propos de Gabriel Landeskog qui est capitaine chez l'Avalanche Colorado. Je crois que c'est Renaud Lavoie à TVA Sports qui lui parlait et il devient très très émotif parce que tu sais on pose des questions souvent, qu'est-ce que tu ressens? Les gars sont pas capables de qualifier. Qu'est-ce que tu ressens? Puis c'est drôle, mais Stéphane, t'es là, t'as gagné la Coupe Stanley, tu sais. Puis je suis convaincu que quelqu'un qui t'a posé la question, comment tu vis ça? Puis j'ai l'impression que personne peut le qualifier, peut le définir. Qu'est-ce que raconte-nous un peu avec Chicago.
Parce que hier j'écoutais ça puis je me rappelais tellement 2010. Je me rappelais tellement 2010 à Chicago et puis sur le coup c'est comme t'essayes de tu trouves les mots puis y a rien qui sort. Ça se décrit pas, il n'y a rien. C'est dur de dire, waouh, c'est incroyable, c'est fantastique. Il n'y a rien qui sort. Et tout ce que tu as en tête, c'est tout depuis tes ticus, puis tout ça te déroule là, dans 5 minutes dans la tête. C'est complètement débile. Et puis, je voyais la même émotion sur les joueurs de Colorado hier, où ce que il est interviewé et puis les gars ça sort pas, ils savent, ils ont pas de mots pour ça et puis c'est vraiment ça, je me rappelle le commercial d'une couple d'années de la Ligue nationale où c'était justement les gars qui gagnaient la coupe puis qui étaient sans mots et puis je regardais ça hier puis j'avais encore des frissons puis ça me rappelle des souvenirs incroyables, mais c'était tellement de travail, t'as tellement de sacrifices, t'as tellement de de chance là-dedans. T'as tellement de toutes choses qui arrivent puis que tout tombe au bon moment. Encore là, aujourd'hui, je sais pas quoi dire.
Mais tu vois, parce que, regarde, à Sorel, on a eu la chance quand François Beauchemin a remporté la Coupe Stanley avec les Ducks. On a fait toute une grande fête, puis j'étais là, puis là, j'avais la Coupe Stanley dans les mains. Ma blonde, elle me dit, lève-la, tu sais, prends une photo. C'est impossible. Je peux pas faire ça. Je peux pas la lever parce que je l'ai pas gagné.
C'est ça.
Et juste une autre question, Steph. C'est quoi le feeling de la lever au-dessus de ta tête, la Coupe?
Ah, si bol, c'est...
Avec le bec, le fameux bec.
Oh oui, esprit, on embrasse tout en même place. Et puis, il y a pas de COVID, je peux dire ça. Mais c'est un feeling incroyable de la voir au but. Hey, j'ai des photos encore là, chez nous. Puis la coupe au-dessus de tes bras, c'est comme... Elle me semble qu'elle pèse rien. Là, quand tu l'as sur le cou, là, elle pèse rien. Même si elle pèse 32 livres et quelques... Mais non, c'est tout un feeling. Encore hier, je me répète, là, mais quand je regardais les joueurs là, tellement émotifs, là, c'est tout un feeling.
Je reviens à Landeskog. Landeskog qui n'arrive pas à décrire ce qui se passe. Et lui, sa première réaction, c'est de penser à ses enfants. Il dit, tu sais, je pense à mes enfants parce que je veux leur montrer c'est quoi être capable de faire partie d'un groupe qui gagne, tu sais. Fait que j'ai ça, puis écoute, il devient émotif, il a quasiment le coup de pleurer pour dire c'est l'exemple que je veux donner à mes enfants, on est capable de gagner. Imagine quand t'as un capitaine comme ça, sensible, intelligent, c'est un noyau qui est solide. Simon-Olivier Larange, est-ce que l'Avalanche peut garder ça, ce noyau-là? Est-ce qu'on est capable de répéter ça, selon toi?
Je crois que oui, et une des raisons pourquoi je dis ça, c'est le Lightning de Tampa Bay. C'est-à-dire que quand le Lightning a gagné la Coupe, il y a 2 ans, en 2020, on se disait, ils pourront jamais garder ce noyau-là. Avec le plafond salarial, ça va être compliqué. Ils ont réussi, ils ont réédité en 2021. L'année passée, on se disait, là, c'est sûr, c'est fini, ils pourront pas garder tel joueur. Et ils ont réussi à trouver une solution. Ils sont revenus avec une équipe qui est passée très, très proche de gagner la Coupe Stanley une troisième fois. L'Avalanche est dans une situation peut-être plus critique, le Lightning, les dernières années. C'est-à-dire, il y a beaucoup de joueurs autonomes, sans restriction aussi, avec restriction notamment. Tu as parlé de Lekkonen. Mais quand tu as construit une culture comme ça et que tu as vécu ces émotions-là en tant que groupe, je pense que ça reste un endroit très attrayant pour les joueurs. Je regarde un gars comme Nazem Kadri, qui a eu des années de haut et de bas à Toronto. C'est une espèce de relation amoureuse avec l'équipe, avec les partisans, tout ça. Il se retrouve au Colorado. Le fit est parfait. Gagne la Coupe Stanley. Bien, évidemment que Nazem Kadri pourrait devenir un premier centre peut-être ailleurs et gagner 9 millions, je dis n'importe quoi, là. Mais, tu sais, si pour un peu moins, il peut rester avec l'Avalanche puis dire, ben, je peux gagner l'année prochaine dans un environnement où je suis bien et dans une culture qui est extrêmement bien implantée, je pense que c'est quelque chose qui peut aller loin. Et comme je disais, c'est une situation un peu difficile à gérer cet été. Mais, tu sais, Joe Sakic a montré à quel point c'est un bon DG en construisant cette équipe-là. Maintenant, il peut montrer à quel point c'est un bon DG en la gardant compétitive et en ramenant une équipe pour compétitif dans les prochaines années, comme l'ont fait les Hawks au début de la première moitié des années 2010, comme vient de le faire le Lightning, et comme on pourrait dire, je le crois, l'année prochaine, comme l'a fait l'Avalanche.
Mick, es-tu convaincu que Colorado peut poursuivre?
Moi, je pense que oui, honnêtement, pour tous les arguments que vient de donner Simon-Olivier, et j'enchaînerai aussi avec ce que dit Stéphane, tu sais, sur le feeling de gagner une Coupe Stanley. C'est tellement difficile. C'est en quelque sorte comme une espèce de plafond de verre qui éclate quand tu réussis à gagner ce trophée-là. Et parce que, bon, tu as appris de ton parcours, ça donne une confiance, ça donne des ailes. Moi, je pense que ça, pour les plus jeunes joueurs de l'Avalanche, mais aussi pour les vétérans, tu sais, des gars comme McKinnon, comme Landeskog et compagnie, mais ça va faire en sorte que après ça, même si tu passes des moments difficiles, tu sais comment réagir dans des petits moments clés. Tout ça, c'est énormément d'apprentissage, un cycle de Coupe Stanley. Puis pour ça, puis pour le fait que c'est une maudite bonne équipe de hockey, je pense qu'ils auront tout pour répéter ça. Puis on va voir peut-être que ça va transformer aussi Darcy Kemper pour la suite. Là.
Ouais, mais écoute, c'est une bonne question. Darcy Kemper, Stéphane, il est joueur autonome, lui, à moins que je me trompe. Là. Tu re-signes Darcy Kemper?
Ben, il faut que je re-signe, c'est certain. Puis, Toronto va aller après aussi, je pense. Donc, lui, il va profiter du marché parce qu'il n'a pas beaucoup. Mais il faut que Colorado fasse tout ce qu'ils peuvent pour le signer, même s'ils vont être très limités sur le plafond salarial parce qu'ils ont beaucoup de monde à s'occuper, là, dont Kadri, Lekkonen, ils ont beaucoup de joueurs autonomes qui s'en viennent. Mais je pense qu'ils sont là pour les prochaines années, moi aussi, Colorado. Écoute, là, Makar, Landeskog, MacKinnon, Rantanen, Taves, le défenseur, sont tous dans leur prime en ce moment. Oui, ils vont l'être. Il y en a même qui ne l'ont pas atteint. Là. Makar n'a sûrement pas atteint. Donc, ils sont là encore pour 2-3 ans, d'après moi, ou ce qu'on va pouvoir dire, c'est des prétendants à la Coupe Stanley. Et puis, il n'y a aucune... Il n'y a pas beaucoup de chance là-dedans. Ils sont là parce qu'ils sont mûrs pour être là. Puis bravo à Joe Sakic. Moi, là, je suis impressionné par qu'est-ce qu'il a fait depuis un an. T'as d'aller chercher Taves, qui complète le meilleur duo de la Ligue nationale dans la Ligue nationale de défenseurs. Il est allé chercher Lekkonen, il est allé chercher Cogliano, il est allé chercher Josh Manson. Ça, là, c'est des acquisitions incroyables. Puis ça, tu fais ça quand? Quand ton noyau, il est prêt à gagner. Là, son noyau, t'es mature à gagner. Là, t'es entouré. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'on a fait à Chicago quand on avait Taves, Keith, Kane, Seabrook. Quand on a eu ça, après ça, on était chercher des Mariano ça pour les entourer, des Andrew Ladd, des gars de même pour les entourer. Mais quand on était prêt, puis eux autres, le noyau était prêt à gagner, puis Joe Sakic qui a fait tout un job, je peux te dire ça, moi, là, wow, impressionnant.
Je me demande si Devin Taze, c'est pas son meilleur coup à Joe Sakic depuis qu'il est en poste ou dans la construction de cette équipe-là. C'est pas, c'est évidemment pas le joueur, la grande vedette de cette équipe-là. Mais quand on regarde, il a coûté 2 choix de deuxième tour aux Islanders. Il gagne 4 millions pour encore 2 ans. Et le travail défensif que ce gars-là fait, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il est également une des raisons qui a permis à Cale Makar d'exploser comme ça cette année. Makar qui jouait plus avec Girard, je pense, l'année passée, cette saison. Bon, Girard s'est blessé, s'est rendu Tay son partenaire. C'est vraiment une paire de défense parfaite. Et des fois, ces joueurs-là qui sont un peu plus dans l'ombre, on finit par moins en parler, mais de Sakic, de tous les pions qu'il a mis en place, Taze, pour moi, c'est un des pions les plus importants.
Ouais, il y a un certain Nichushkin aussi qui est pas pire pour Joe Sakic.
Un autre très bon.
Dallas en voulait plus, non?
Ah, exactement.
Non, aïe.
Mais lui, il était pas bon pour vrai à Dallas, c'est sa différence.
Ouais, il était très irrégulier. Moi, je me souviens, il présentait pas tous les matchs. Mais encore là, ça, c'était des joueurs de même. C'est une question de maturité. Des fois, il faut que tu sois patient. Et puis, ou des fois, c'est une question de fit. Avec la bonne équipe à la bonne place, avec le bon entraîneur. Et puis, une autre très bonne acquisition. Wow!
Bon, mais messieurs, parlons. On va s'arrêter quelques instants. Pour retour, on va parler du Lightning de Tampa Bay. C'est un club de guerriers, mais un club blessé. On en parle, restez là. On est de retour au balado sortie zone, épisode 59, saison 3, en compagnie des gars de la presse, Simon-Olivier Lorange qui est là, Michael Lalancette, nous avons Stéphane White également avec nous. Bon, on a parlé de l'Avalanche du Colorado, la puissance qui s'est établie dans la Ligue nationale de hockey. Parlons de celle qui a dominé les deux dernières saisons, le Lightning de Tampa Bay. Écoute, ce sont des guerriers sans Braden Point, ce sont de réels guerriers. Il manquait quelques éléments, mais à un moment donné, on a senti qu'il n'y avait plus d'essence. Là. L'essence n'était plus dans la machine, il n'y en avait plus, puis les gars sont blessés. Clairement, on va apprendre un paquet de blessés là, au courant des prochains jours. Mais ce club-là a tout donné, mais c'était pas assez, Stéphane. Il en manquait encore. Là.
Il en manquait. Mais écoute, tu sentais plus que ça allait, tu sentais que les gars étaient fatigués et blessés. Ça, tu n'es pas moins qu'un génie du hockey pour t'apercevoir de ça, là, que tu pouvais le voir. Mais écoute, là, bravo, Tampa. 3 ans en ligne. À se rendre jusqu'au bout, c'est très, très difficile. C'est très difficile mentalement, physiquement. Ces gars-là, tu repars la saison puis t'es pas guéri de toutes tes blessures de la saison d'avant, puis tu repars une longue saison. Quand tu finis cette saison-là, tu repars une autre longue saison qui est les séries, qui est très intense. Et puis, non, moi, bravo cette équipe-là. T'inquiète, oublie, gagne ou perd, là. Ils ont joué beaucoup de hockey encore. Donc, ça va être encore difficile l'année prochaine parce qu'ils vont commencer la saison et puis la saison estivale n'aura pas été longue. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de hockey. Mais Tempo commence à vieillir. Écoute, McDonald, il vieillit.
Ça n'a pas été facile pour lui.
Non,
j'imagine qu'il était blessé, honnêtement. Là. On va apprendre.
Probablement. Corey Perry, mais écoute, il vieillit. Edmund vieillit. Stamkos vieillit. On vieillit, là. Et puis ça va être de plus en plus difficile, sauf que tu as vu que ces gars-là, hier, ça les a fait très, très, très mal de perdre. Et puis, c'est ça des gagnants. moi, là, c'est bravo quand même.
Il n'y a pas pire feeling dans la vie d'avoir le genou à terre et tu regardes l'autre club qui a gagné. Là.
Ça doit être l'enfer. Ah. Je ne l'ai jamais vécu. J'ai tout le temps, là, que ce soit tous les niveaux, là, quand on était en finale, j'ai eu la chance de gagner. J'ai jamais vécu là, de perdre une finale. Puis je me suis souvent posé la question, moi, ça doit faire mal.
C'est horrible. Quand même, ça se laisse bien une conversation. Moi, j'ai jamais ça, perdu. Je perds pas, moi, jamais. Même, je te garantis.
Le problème, c'est de se rendre là.
Moi, je te garantis. Moi, j'ai été souvent de l'autre bord, là, avec le genou à terre, puis c'est horrible. C'est horrible. Tu, à un moment donné, tu dis par respect, je suis obligé de rester, mais la seule chose que tu as le goût de faire, c'est sacrer ton camp au plus vite, là.
Tu veux rien savoir.
Tu veux pas voir ça. Non. C'est quoi, tu as un coup de couteau dans le cœur?
Je regardais les entrevues d'après-match, les gars de Tampa, là, tu voyais qu'il avait le regard vide, il voulait être n'importe où, ailleurs, sauf en entrevue.
Parce qu'il faut savoir qu'ils ont travaillé aussi fort que l'autre équipe. Hein? Fait que je veux dire, c'est le même prix physique sans la récompense au bout. Fait qu'on peut comprendre l'engagement émotif qui vient avec ça. Moi, je regarde Tampa, puis je me dis, tu sais, tantôt je disais, on pensait que c'était fini, puis c'était jamais fini. Je pense que peut-être le tournant, il est là. Déjà que je vois pas comment ils peuvent offrir un nouveau contrat à Andrei Palat. Déjà, ils dépassent le plafond salarial pour l'année prochaine. C'est quand même un morceau important de leur attaque. Dans un an, c'est Cyril Lee, Sergachev et Cernak en même temps. Je veux dire, ça va être encore une bonne équipe en 2022-2023. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais en plus, en ajoutant à ça le facteur du vieillissement dont parlait Stéphane, je pense peut-être que le Lightning, il va avoir un rajustement ou en tout cas peut-être que l'équipe va être appelée à plus changer qu'au cours des dernières années. Puis il y a des petits morceaux qui semblaient un peu moins sharp, si on veut. J'ai l'impression que les dernières saisons, le quatrième trio était peut-être plus régulier que ça.
Le troisième avec Yanni Gould, Coleman,
Gaudreau. On avait un troisième trio drive. Là, je pense qu'on a réussi à en reproduire une très bonne version, évidemment, avec Nick Paul et Brendan Eagle, mais c'était peut-être moins précis.
Écoute, excuse-moi, je t'interromps. Là, mais puis Michael, je veux t'entendre là-dessus. Eagle, là, honnêtement, on a payé cher. Là. Deux choix de première ronde pour ça et pour ça. Pour lui, mais tu sais, ça amène. J'ai l'impression que Julien Brisebois dit ah, ça va me générer plus d'attaques, mais il a oublié de penser que ça prend une locomotive à travers tout ça.
Ouais, mais c'est peut-être décevant là, en termes de contribution, mais en même temps, tu peux pas frapper pour 1000 je veux dire, ils ont fait énormément de bons coups dans les dernières années. Puis tu sais, on savait que c'était pas lui justement qui allait traîner l'équipe et tout ça. Est-ce qu'on a surestimé? En même temps, l'Avalanche est une méchante équipe là. Tu sais, sincèrement, le Lightning, moi, j'ai pas grand-chose à leur reprocher entre guillemets. Je trouvais que moi aussi, ça paraissait là. Justement, il y a des gars là-dedans qui ont eu beaucoup de millage depuis plusieurs mois, puis mis ça tout ensemble, à un moment donné, ça fait que ça les gars ralentissent un peu, puis je veux dire, ils s'ajoutent des blessures qui guérissent pas à 100%, puis tu traînes un bagage, veux pas, là, de 2-3 ans d'intense compétition. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que le Lightning... moi, j'aimais ça de voir la réaction, même si je sympathisais à 100% avec leur déception, mais de voir une équipe aussi déçu après avoir gagné deux Coupes Stanley, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que le corps de cette équipe-là, il était tissé serré. Là. Tu sais, c'était du pur bœuf, là, dans le sens que tout le monde prenait la victoire, avait la victoire à cœur et tout ça, et de voir cette réaction-là, ça en dit long sur l'identité d'équipe gagnante qui a été développée dans les dernières années à Tampa. Moi, ça, c'est venu beaucoup me chercher parce que tu voyais que ça faisait mal. Et pourtant, ils ont goûté à cette victoire-là plus souvent qu'à leur tour dans les dernières années. Alors ça en dit long, je pense, sur l'identité qui avait été développée au sein de cette équipe-là.
Moi, il y a un petit bout qui est venu me chercher dans la défaite du Lightning de Tampa Bay, c'est de voir la conjointe de Corey Perry en pleurs dans les estrades. Tu sais, Corey Perry, c'est trois fois en finale de la Coupe Stanley sans jamais gagner. Tu sais, il faut que tu travailles, là. Dallas, Montréal, Tampa Bay, tu gagnes pas une fois, mais tu vas trois fois en finale de la Coupe Stanley. C'est quand même puis écoute, il a donné un sérieux coup de main au Lightning de Tampa Bay. Par moment, il était lui-même, c'est-à-dire Corey Perry, avec toutes ses petites passe-passe de lancer à la bouteille d'eau du gardien de but. Mais quel bonhomme, honnêtement, ce gars-là, il est incroyable.
Ouais. Moi aussi, ça m'a fait quelque chose de voir ça là, pour lui, puis pour voir ça, son épouse là, pleurer avec son petit gars dans les bras. Parce qu'elle sait c'est quoi qu'il veut, son homme. Hein, il veut gagner une coupe avant de raccrocher parce qu'il en reste plus beaucoup de millage à Corey Perry. Mais encore là, c'est triste. Mais c'est triste. Mais en même temps, c'est comment tu qualifies ça? Le gars, il va quand même trois fois en finale avec trois équipes différentes. Fait qu'il doit avoir quelque chose à voir là-dedans. Là. Il doit avoir. Il y en a qui vont dire ben ouais, c'est un loser, il gagne jamais. Ben, moi, je vais aller sur l'autre bord. C'est un maudit gagnant, je peux te dire ça, pour amener des équipes que les Stars n'étaient pas supposés d'être là il y a 3 ans. Ils les ont emmenés là. Le Canadien n'était pas supposé d'être là l'année passée. Ils les ont emmenés là. Il dit, bon, mais là, je vais y aller avec la meilleure équipe de la Ligue nationale. Il est allé jusqu'au bout. Quel gars, c'était impressionnant. La seule affaire qui me console, c'est que Corey Perry n'a gagné une à Anaheim. Au moins, si ça, il en gagne pas un autre, il va pouvoir dire au moins il l'a gagné une fois. Mais écoute, j'ai seulement du respect pour ce gars-là.
Simon-Olivier, est-ce que Perry continue, selon toi, avec, ben, il n'y a pas le choix, c'est un contrat de 2 ans.
Ouais,
il reste
Tampa Bay,
là. Fait que donc, il reste une année à son contrat. Là, tu nous disais que les options pour Tampa Bay, ça peut être difficile cette année. Ça sera un bon club de hockey la prochaine saison, mais clairement, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? On ne sait pas. Mais ça fait quand même quelque chose. Tu sais, Perry a marqué le collectif ici à Montréal. Tu sais, il y avait un petit quelque chose de spécial avec ce gars-là.
Ben, il y avait quelque chose de spécial, assurément. Puis même, en fait, moi, ce qui m'impressionne de Corey Perry, c'est d'avoir apporté cette chose spéciale-là à Tampa, dans une équipe qui avait déjà gagné, dans un club déjà soudé, dans une machine déjà rodée. Puis tu sais, c'est ce que disait Stéphane sur les qualités de ce joueur-là. Tu sais, on se rappelle, il se fait racheter son contrat par les Ducks d'Anaheim, signe. On va prix à Dallas, s'en va en finale à la Coupe Stanley. Pour signer par les Stars qui n'ont pas de place à masse salariale, signe au salaire minimum à Montréal, commence sur l'équipe de réserve, se révèle comme un des grands leaders de l'équipe jusqu'en finale. Cette année, il y avait un peu plus d'options, je pense. S'en va à Tampa, dans un club pacté, pour prendre l'expression consacrée, joue sur l'avantage numérique ou dans un match 6 de finale à la Coupe Stanley. Je veux dire, ce gars-là, il est pas tuable. Là. Puis je pense, c'est pas le Corey Perry qui a gagné la Coupe à Anaheim en 2007, mais c'est encore un joueur de hockey qui en a à donner. Et dans le Lightning, dans sa, je dirais pas reconstruction, mais disons dans ses ajustements des prochains mois, prochaines années, ben, il y a un joueur qui peut avoir un impact comme ça dans le vestiaire, qui peut te donner un 35-40 points, jouer en avantage numérique pour 1,5 million. Je pense que c'est pas la pire affaire que peut faire Julien Brisebois. Là.
Il y a une autre chose qui m'a pris un petit peu au cœur hier dans le match en regardant Mikhail Sergachev jouer avec le Lightning de Tampa Bay. Et là, Mikhail, écoute, je le sais, puis tu sais, je veux pas faire des comparaisons parce que c'est facile de le faire un coup que c'est passé, là. Mais sincèrement, je pense que le Canadien aurait besoin d'un gars comme Sergachev, surtout quand on voit comment Jonathan Drouin s'est été. Est-ce que tu as eu cette réflexion-là à un moment donné durant les séries?
Bah, ben, c'est sûr. Écoute, il a joué un rôle de premier plan à la ligne bleue, aucun doute là-dessus. Tu le vois, il a peut-être passé des bouts un petit peu plus difficiles où est-ce que on disait, ouais, il est encore en rodage, il est encore en apprentissage. Là, l'expérience, ça paraît qu'il y en a, là. De la façon qu'il se comporte, il y a de la confiance, la tête dans les airs, puis il fait pas, tu sais, il y a des fois, il voulait trop en faire ou épater la galerie. Là, il est efficace, il est intense. Je trouve qu'il est concentré dans sa façon de jouer. Non, c'est sûr, aucun doute. Là, je peux pas. Il n'y a pas grand chose à dire à part que là, c'est sûr, c'est une transaction qui fait très mal aux Canadiens. Mm. Puis ça va être ça encore pour plusieurs années. Et on le voit qu'il y en a du gros hockey dans le corps. Puis il a été bon cette année. Puis ça va continuer à être ça. Là, puis il va encore s'améliorer. Alors, c'est sûr qu'il a été hyper utile. Puis il a montré son talent. T'sais, on a toujours su que c'était un gars qui était très talentueux. On se demandait comment allait être son développement. Là, ce qu'il nous montre, c'est que justement, il répond aux attentes.
Stéphane, t'étais là, toi, dans le temps de la transaction sur Sergachev, droit?
Non.
Ah, OK.
Oh, j'étais là. J'étais là, mais je me souviens d'une affaire, moi. Comme tous les Québécois, cette journée-là, on était contents de l'échange.
T'as raison.
Nous autres, on était contents à l'intérieur. Tout le monde au Québec était content. Et puis, écoute, on pensait, ils disaient, waouh, on vient d'avoir tout un joueur de hockey. Puis, Sergachev, on n'est pas sûr de son développement, comment il va aboutir. Ça pour dire que le hockey, écoute, encore une fois, c'est pas une science exacte. Et puis, c'est sûr, aujourd'hui, on peut dire que le Tampa a eu le dessus. Mais la journée qu'on l'avait faite, je me souviens, il n'y a pas grand monde au Québec qui critiquait le Canadien de Montréal, loin de là.
Non.
Ah, mais c'est tellement facile de critiquer d'un podcast une couple d'années après. C'est pour ça qu'on est là. C'est de même que ça marche. Mais si on va s'arrêter quelques instants pour retour, on va se parler justement du Canadien de Montréal. Là, il commence à y avoir beaucoup de départs, là. Luke Richardson, Chicago. Ça a-tu été confirmé? J'ai pas encore.
Oui, c'est fait.
OK, c'est fait. Okay, c'est confirmé. Bon.
J'ai parlé à Luke, puis j'ai parlé à Burke.
Sean Burke s'en va du côté des Golden Knights. Bon, mais écoutez, j'espère que tu vas nous raconter ça au retour. Restez là. Wow. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 59, troisième saison avec Simon-Olivier Laurence de la presse, Michael Lancette, Stéphane White. Bon, mais Stéphane, là, écoute, tu nous as mis en haleine. Luke Richardson confirmé comme entraîneur des Blackhawks de Chicago. Sean Berg quitte son poste, je sais pas comment le définir avec le Canadien, responsable des gardiens de but.
Directeur des gardiens de but.
Et mais c'est un poste qu'il n'avait plus par ailleurs. Depuis quelques semaines, cette ligne-là avait disparu du Canadien. Il était seulement recruteur, mais Sean Berg.
OK, on a changé son rôle.
Le mystère est resté jusqu'à la fin, mais bref, le Canadien perd un recruteur.
OK, fait qu'on a changé son rôle sur le formulaire T4. Et juste dire, Stéphane, tu as eu la chance de jaser aux deux. Raconte-nous un peu, les gars sont contents.
C'est sûr que j'ai parlé avec Richie vendredi. Et puis, il était très content, bien entendu. Il a adoré ses années à Montréal, qui me dit. Mais il dit qu'il ne pouvait pas passer à côté de cette chance-là. Puis, avec raison, j'y ai souhaité de bonne chance de travailler avec un autre White. Il va avoir mon frère comme entraîneur des gardiens de but. J'ai dit bonne chance avec. Et puis, je suis très heureux pour lui. Le gars, il a fait ses classes. On a parlé la semaine passée. Il a été coach dans la Ligue américaine dans l'organisation des Sénateurs. Il a été 4 ans avec les Sénateurs comme assistant, 1 an avec les Islanders, 3 ans avec Canadiens ou 4 avec Canadiens. Donc, il a fait ses classes et puis il est tellement respecté. Très bonne acquisition pour les Blackhawks, mais grosse perte pour le Canadien. Écoute, avec les jeunes défenseurs qui s'en viennent, c'est une grosse perte.
OK, là, je sais qu'il y a plusieurs qui ont parlé, puis on va revenir de Sean Berg dans quelques instants. Là, il y a plusieurs qui ont parlé de Francis Bouillon, puis je sais que notre collègue Maxime Lapierre a parlé de Francis Bouillon pour être l'entraîneur des défenseurs. Juste dire, je l'ai eu aux amateurs de sport, et ce qu'il me disait, c'est, je suis pas tout le monde, tu sais, même Wayne Gretzky, ça veut pas dire que c'était un bon coach, genre, c'est pas tout le monde qui a ça dans le sang. J'ai pas senti que lui, c'était quelque chose qui voulait tant s'en aller derrière le banc. Peut-être que ça sera ça, mais je sais pas, est-ce que c'est le choix automatique de mettre Francis Bouillon comme coach et défenseur, Simon-Olivier?
Choix automatique, non. C'est-à-dire qu'il est là. Fait que c'est sûr que ça en fait un candidat un peu évident, mais ça en fait un candidat. Après ça, Francis Bouillon, je lui ai pas parlé. Je sais pas, mais peut-être qu'une situation familiale qui fait en sorte que peut-être que c'est pas quelque chose qu'il veut à court terme dans sa carrière, être derrière un banc, ce qui est très différent qu'être coach de développement comme il l'est maintenant, même si ça implique du voyagement. Peut-être que c'est pas quelque chose à laquelle il aspire. J'ai aucune idée de la situation de Bouillon. Maintenant, est-ce que c'est le seul candidat? Non. C'est sûr, si on parle d'un... T'sais, je sais pas si on veut un coach québécois pour déjà que dans le groupe, il y a Burroughs, il y a Saint-Louis, fait que peut-être qu'on s'en fera pas avec ça dans la mesure où Richardson, de toute façon, n'était pas un Québécois, mais il y en a des candidats, là, ils me viennent pas nécessairement en tête, mais tu sais, Bouillon, c'est pas un couronnement pour Francis Bouillon présentement, je pense que, puis connaissant la personnalité puis le type de personne qui est Bouillon, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui recherche non plus à se faire tout donner cul dans le bec, parce que c'est jamais ce qu'il y a eu dans sa carrière comme joueur, là, de toute façon, mais...
J'amène un nom, Alain Nasreddine? Lui, il est disponible.
Il est disponible, tout à fait. Ouais. Pourquoi pas?
Très bonne. Moi, je trouve que c'est une très bonne candidature.
Ouais.
Je sais pas si c'est un bon candidat, mais il y a Eric Weinrich, ancien défenseur du Canadien, qui est dans l'organisation des Devils aussi depuis des années, où était Nasreddine. Fait que, tu sais, je pense que le Canadien n'aura pas de difficulté à combler ce poste-là et peut-être un autre. Je sais qu'il y en a qui parlaient de peut-être coach associé, athlétique, mentionnait le nom de Rick Bowness. En tout cas, je pense que ça va encore bouger pour le Canadien cet été derrière le banc.
OK, Mick, comment tu vois ça, toi?
Ben un peu comme les collègues, tu sais, moi ça court pas tant les rues que ça là, les gars d'expérience et tout ça. Moi je pense que c'est peut-être quelque chose qui est identifié comme un des critères justement d'avoir cette expérience là. Tu sais, on parle d'Alain Nasreddine, je veux dire ça va de soi là, il y a une feuille de route, il est respecté et tout ça. Et Stéphane a mentionné quelque chose. Moi je trouve que c'est une grosse perte de voir Luke Richardson quitter à une étape où est-ce que là ça pousse là, les jeunes défenseurs là, Harris, Byron et compagnie, puis je peux vous dire les gars que moi je suis la Coupe Mémorial là, et en ce moment le jeune défenseur qui a été signé au camp d'entraînement au dernier camp d'entraînement, Arber Jacky, là, il y a tout un tournoi pour les Bulldogs à Hamilton, c'en est un qu'il va falloir surveiller lors du prochain camp et dans les prochaines années. Il y en a plein des jeunes défenseurs, fait que c'est doublement important d'avoir quelqu'un d'expérience à cette position-là. Est-ce que Francis Bouillon peut être un candidat? Il y a une chose qui est sûre, que ça lui, tu sais, que je sais pas si c'est lui qui a la plus longue feuille de route, mais ce sur quoi je doute pas, c'est un, ses compétences, puis deux, son désir de vaincre, puis de vouloir tout le temps devenir meilleur. Cette passion-là, on la connaît pour ce qui est de Francis. Mais je trouve que c'est une grosse perte dans ce contexte-là, puis on va voir qu'est-ce qui va en arriver, mais bref, c'est ça. C'est quand même des bonnes chaussures à chausser. Là.
C'est un peu du champ gauche comme réflexion et j'ai rien à dire contre Luke Richardson comme tel, mais je me demande si c'est pas un bon timing, justement, étant donné ce virage-là que prend la défense du Canadien. C'est quand même un gros changement d'identité pour la défense du Canadien. Tu sais, on pense à top 4 aux séries de 2021, Weber, Chiarot, Edmondson, okay. Petrie.
Je comprends ton point.
Petrie, bon, évidemment, mm-hmm. on pourrait encore rester un certain moment, mais tu sais, le modèle, le gros, tu sais, le du gros défenseur, plus ou moins mobile, mais qui joue dur autour du filet, etc., tend à peut-être pas disparaître, mais à évoluer chez le Canadien. Et Richardson, je trouvais personnellement que travaillait bien avec ce type de défenseur-là, mais je savais pas, j'étais un peu curieux de savoir c'était quoi la suite, la transition vers une défense plus moderne. On parlait de Makar tantôt. Il y a pas de Kyle Makar, l'organisation du Canadien, on se comptera pas de menterie, mais tu sais, peut-être avoir une transition, puis je dis pas que c'est un gars qui devait s'en aller, mais je pense que l'occasion est belle de justement apporter un œil neuf sur une défense neuve, finalement, et de dire, est-ce qu'on va ailleurs? On regarde Martin Saint-Louis qui est tellement un entraîneur qui est ouvert aux idées nouvelles. Je pense que c'est le temps d'essayer des choses en défense.
OK, ouais, c'est un bon point, mais on a vu quand même que Tampa Bay a une grosse défensive. C'est sûr que Victor Hedman aide beaucoup à la chose, là, soit dit en passant. C'est peut-être pas révolu, mais clairement, le festival du double échec, comme on l'a vu à la chez Weber, ça peut être changé au courant des prochaines années. Ouais. Juste avant qu'on tombe dans le joyeux monde des rumeurs, monde insolite des rumeurs. Ouais. Juste finir, Stéphane, Sean Burke, lui, comment...
Sean, c'est drôle, on s'est parlé tantôt, il y a à peu près une demi-heure ou une heure. Écoute, je suis très content pour lui. C'est un gars avec qui je m'entendais très bien avec Canadien. On parlait beaucoup de gardien de but. C'est un gars qui a une très belle réputation comme entraîneur de gardien de but dans la Ligue, qui faisait une bonne job. On jasait souvent, moi puis lui, quand j'étais Canadien. Sean, il était comme directeur du département de gardien de but où ce que un directeur, ça fait quoi? Ça se promène un peu partout. Ça va voir nos gardiens de but, nos prospects qu'on a repêchés. Ça va voir les prospects pour le repêchage. Ça jase beaucoup avec l'entraîneur des gardiens de but à Laval. On se réunit une couple de fois par année pour dire, bon, OK, c'est comment ça s'en va dans nos gardiens de but, dans l'organisation.
Mais attends, écoute, je te pose une question. À deux semaines du repêchage, quand ton gars, c'était ça,
c'est bizarre. C'est bizarre. Mais là, rendu là, je sais pas c'est quoi le qui s'est passé à Montréal parce que je suis pas là, mais dans mon temps, c'était là. Donc, tout ça pour dire que j'y ai parlé. Il est très content de sa nomination à Vegas. Il va encore être directeur des gardiens de but et entraîneur des gardiens de but. Donc, c'est quelque chose que je savais pas. Je pensais que ce serait au niveau du développement. Et puis, non, il va être sur la glace à tous les jours. Il fait un retour à temps plein sur la glace. Et puis, une très bonne acquisition pour les Golden Knights. Aucun doute là-dessus.
Il va quelques dossiers intéressants chez les gardiens de but des Golden Knights pour Sean Burke. J'ai hâte de voir comment
il
va traiter ça.
Il y a le gros Leonard, là, c'est exactement le type que Sean Burke adore. Des grands gardiens de but. Sean, il était un grand gardien de but parce qu'il a évolué un certain style dans sa carrière. Puis après ça, il a pris en main un Bruce Golov où ce qu'il l'a mis sur la map. Il a pris en main un Dubnyk où ce qu'il l'a mis sur la map. Il a pris en main un Mike Smith où ce qu'il l'a mis sur la map. Puis c'est tout des gardiens de but.
Ah, c'est à cause de lui, Mike Smith, OK?
Ouais, dans ses meilleures années. Dans ses meilleures années à Phoenix. Et puis, il a tout fait de ces grands gardiens de but-là, des très bons gardiens de but dans la Ligue. Et puis, il a le même projet avec Robin Lehner.
Est-ce que je me trompe, Stéphane, ou Sean Burke restait encore aux États-Unis? Je pense qu'il est en Arizona, c'est ça?
Non, il reste dans la région de Détroit, là, voyons, Travis City.
OK, je pensais qu'il restait plus dans le sud que ça. Ouais. Mais tu sais, pour un gars comme lui, justement, comme tantôt, je l'ai dit vite, là, mais tu sais, qu'il était plus directeur des gardiens de but à Montréal, pis ça n'a jamais été vraiment clair un peu. Il y a comme, c'est soit Gorton ou Hughes qui a pitché ça dans une phrase il y a quelques mois, comme quoi, il était pas vraiment directeur, tout ça, puis... Je dis pas que c'était pas le cas, là.
Probablement que son rôle a changé.
Ouais, c'est ça. Fait que son rôle a changé. Fait qu'il était devenu juste, entre guillemets, recruteur professionnel, ce qu'il faisait depuis des années avec le Canadien. Moi, je vois ça comme une évolution normale que ce gars-là se cherche une job ailleurs. D'autant plus s'il avait jamais résidé à Montréal, à part les quelques mois qu'il a passé avec le Canadien en 2020-2021, quand Stéphane a été remercié. Tu sais, je vois ça. Il y a rien qui m'a surpris là-dedans de voir Burke s'en aller.
Entre la 2 et la 3.
Entre la 2 et la 3.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens.
Ah!
En tout cas.
Il faudrait prendre du temps à un moment donné pour parler de ça. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vu Camilleri entre la 2 et la 3. J'étais à Boston quand Camilleri était échangé. Là.
On a parlé souvent, moi puis Marc Bergevin, depuis ce temps-là. Puis,
t'as-tu dit que c'était peut-être pas le meilleur move qu'il a fait?
Il m'a dit, ça sera fait, j'en ferai pas ça comme ça. Écoute, c'est correct. Puis j'en veux pas à Marc Mantoute parce que je sais les raisons pourquoi il l'a fait. Puis il a voulu bien faire, puis ça a mal tourné. Donc, pas de trouble.
OK. Mais c'était quand même, il aurait pu attendre, se permettre une petite gêne de 20 minutes, là, attendre que le match se termine. Bon. Ça aurait été pas si pire. Bon. OK, tombons dans le joyeux monde des rumeurs. Là, messieurs, écoutez, sur les réseaux sociaux, ça sort à gauche, à droite. Là, tout le monde est quasiment disponible chez les Canadiens. Jeff Petrie, ça fait 4 fois qu'il est échangé. Et bon. Là, il y a Josh Anderson qui, là, tout le monde dit, beaucoup d'intérêt. Puis selon mes sources, des sources fiables, puis les insiders, là, ils sortent. Là, on a shaké le pommier, puis ça tombe. Là, il y a des insiders partout. Qu'est-ce que vous pensez de ça quand on entend que Josh Anderson, tout le monde s'intéresse à lui, puis que ça serait peut-être une possibilité pour le Canadien de le voir échanger? Je vais commencer avec Michael. Mick, tu penses quoi de ça, toi?
Ben, je comprends qu'on évalue toutes les options du Canadien parce que là, on est à 2 semaines du repêchage, puis dans le fond, c'est un élément. Je pense que oui, on peut parler du dossier Weber. Bon, que là, c'est réglé. Dossier Price, c'est des priorités pour la nouvelle administration. Je comprends ça. Mais ce repêchage-là, il va les suivre jusqu'à la fin de leur règne et plus. Je pense que dans 10 ans, on va reparler de cette. Non seulement ils ont le premier choix total, mais ils ont énormément d'options, plusieurs choix de repêchage. Fait, ils jouent gros dans ce repêchage-là. Et je comprends d'évaluer tous les scénarios possibles. T'sais, si Anderson peut permettre aux Canadiens de fabriquer une transaction pour aller chercher un autre choix, je sais pas, je dis ça comme ça, les gars, là, mais dans le top 10, ben, ils doivent y songer. Moi, où est-ce que je suis moins enthousiaste, c'est de voir le Canadien échanger un de leurs joueurs les plus rapides et un des gars qui est quand même physiquement imposant. Ils vont en avoir besoin, là, il est seulement âgé de 28 ans. Ça, c'est ma réticence, mais pour le reste, pour évaluer si ça permet aux Canadiens de réaliser une transaction, d'aller chercher un autre choix très élevé, mais ils doivent réfléchir à cette option-là, puis voir bon qui ça peut donner en bout de ligne, puis y réfléchir très sérieusement, parce que ce repêchage-là, il est hyper important pour la suite des choses, et il va être fondateur pour leur règne au grand complet.
Mmh. Stéphane, Josh Anderson, sur le marché, toi?
Ben écoute, je suis d'accord avec Mickaël, il faut que tu écoutes, s'il y a du monde qui veut te faire des offres, il faut que tu écoutes, mais... Tu sais, ils ont beaucoup de choix, repêchage. Puis à un moment donné, ils ne pourront pas tous les signer, ces gars-là, dans quelques années. Là. Tu peux pas. C'est beau d'en avoir 50, mais tu peux pas te les signer parce que ils vont faire face à un moment donné un surplus de contrat et tu n'as seulement 50. Donc, d'après moi, il y a des choix qui vont être à échanger parce que, comme je dis, tu peux pas tous les signer. Donc, un Josh Anderson. Il y en a pas beaucoup sur le marché des gars de même. C'est le gars parfait pour jouer sur un deuxième trio. Un gros bonhomme, comme Michael dit, qui patine, qui peut scorer des buts. 28 ans seulement. À un moment donné, ça va te prendre des gars comme ça. Mm. Et puis, moi, je crois pas qu'il va être échangé. Mais Kent Hughes se doit d'écouter.
En fait, c'est pas comment ça coûte, c'est combien ça rapporte. Ça veut dire, si ouais. ça coûte Anderson, faut que ça rapporte plus que Josh Anderson. C'est ça, là, c'est ça l'histoire, là.
Moi, je crois que Josh Anderson va être échangé. Et Kent Hughes, c'était un agent, il y a tout ça très peu de temps. Kent Hughes, sa job, il y a quelques temps, c'était de vendre ses joueurs. Et présentement, je pense qu'il vend ses joueurs. Dans le point de presse suivant la transaction de Shea Weber il y a 2 semaines, Josh Anderson n'était pas du tout un sujet central et Josh Anderson est arrivé dans la conversation. Il faudrait que je vérifie dans mes notes. Je suis pas sûr que c'est un journaliste qui a pitché le nom. Donc, ce que Hughes disait, parce qu'il parlait un peu, dans le fond, que pratiquement tout le monde, il est ouvert un peu à toutes les possibilités. Je pense pas qu'il change Cole Caulfield, on s'entend, là, mais je pense que Hughes a les oreilles grandes ouvertes pour les offres de ses collègues et c'est un peu le message qu'il leur envoie. Faites vos offres, appelez-moi, dites-moi ce que vous voulez. On va voir. Le nom de Josh Anderson, il dit, ben Josh Anderson, c'est un joueur qu'on adore, on veut le faire jouer à Montréal, mais on n'est pas fermé à rien. La dernière fois qu'il a dit ça de quelqu'un, c'est Arturi Lekkonen, il l'a échangé. Alors, moi, c'est ce qui me fait croire que Josh Anderson serait sur le marché. Je dis serait parce que des fois, nos propos sont repris, puis je veux pas dire que j'ai pas d'informations comme quoi il est là. Ma compréhension, c'est que Hughes est ouvert à l'échanger. Et nos deux collègues ici, Stéphane et Michael, qui disent, il y a juste 28 ans. Moi, je veux dire à l'inverse, Josh Anderson a déjà 28 ans. C'est un joueur qui a été souvent blessé. C'est un joueur à qui il reste 5 ans de contrat à 5,5 millions. C'est un joueur qui joue un style de jeu très drainant, très usant, qui n'est pas extrêmement polyvalent dans son style de jeu, c'est-à-dire qu'il apporte beaucoup de bonnes choses, mais il charge le filet d'une manière quand même assez répétée. Là. C'est pas, Martin Saint-Louis a évoqué ça en fin de saison, qu'il voulait corriger des choses, puis je pense qu'il peut le faire. Mais je pense que s'il y a un marché pour Josh Anderson qui est élevé et que Hughes peut aller chercher pas nécessairement un choix de repêchage élevé, mais un bon espoir, un joueur plus jeune qui pourrait l'aider dans son reconstruction, je pense pas qu'Kent Hughes va hésiter.
OK, messieurs, on le disait, on arrive au repêchage, ce sera le 7 juillet prochain à Montréal, la semaine prochaine. Donc, on aura un balado mercredi, le repêchage, ce sera le jeudi en direct du Centre Bell. Là, je vous pose une question, on fait un tour de table rapide là-dessus et on conclut notre balado. Selon vous, est-ce que le Canadien fait son choix? Shane Wright, Slafkovski ou Coulet? Est-ce que le choix est fait, Stéphane, selon toi?
Il est fait, c'est certain. Parce que s'il n'est pas fait, ils n'ont pas fait leur devoir. Écoute, là, c'est certain qu'ils l'ont vu au moins 100 fois Shane Wright. Puis ils ont vu au moins 100 fois Slafkovski. Fait que si le choix n'est pas fait en ce moment, je serais très surpris. Donc, il est fait.
OK, le choix est fait. Parfait. Et on garde ça pour le prochain balado parce qu'on va faire comme on se fait des fois à la boule de cristal. On va faire les prédictions mercredi prochain. Simon-Olivier, est-ce que le choix est fait selon toi?
Copier-coller de Stéphane. Je pense que en fait, comme il a dit, si c'est pas fait, il y a un problème. Je peux pas croire qu'ils jonglent encore à ce moment-ci. Leurs besoins sont connus. Les joueurs sont connus. Et le choix est fait. Il reste juste à une semaine écoulée.
OK, Michael, je vais te poser une question. Puis je te pose la même, mais j'ajoute un petit quelque chose. Est-ce que le Canadien pourrait faire un Brian Burke de lui-même et essayer de repêcher 1 et 2, mettons? Ça serait-tu, ça?
Ben, ça serait tout un. Honnêtement, ça serait un scénario incroyable, là, mais j'y crois plus ou moins 1-2. Mais de se rapprocher, je crois ça. Je serais pas original parce que j'achète là, ce que viennent de dire les deux collègues. C'est sûr qu'ils savent c'est qui repêche, mais ils ont encore des questions. Ça, c'est sûr qu'ils débattent encore de certains points. Mais je suis pas mal sûr qu'ils savent là qui vont repêcher. C'est ça, ça, ça.
Ah, mon Dieu, que je voudrais pas être à leur place.
Oh non, moi non.
Non. C'est tellement plus facile d'être assis ici. Ceci étant dit, messieurs, je vous remercie énormément pour ce balado.
Ou plus facile d'être assis au New Jersey en ce moment.
Ah oui, ben oui, c'est ça. tu prends qu'est-ce qui tombe après. C'est ça, tu prends. Gros merci à Simon-Olivier Larange de la presse d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci, Michael Lancette. Toujours un plaisir, mec.
Merci, les gars.
Stéphane White, merci beaucoup d'avoir été là.
Hey, merci. Bonne semaine, les gars.
Voilà ce qui conclut ce balado Sortison, l'épisode 59. Et nous, on se parle à la veille du repêchage pour notre prochain balado Sortison.